proche d'être vieux, mon poste ne marche.
Ben, décidément, les petits problèmes techniques s'enchaînent les uns derrière les autres. Est-ce qu'on peut réentendre le générique? Non, il part pas. Eh ben, écoutez, c'est pas grave. Donc, c'est Radio Libre. Alors, toute cette semaine, France Culture a permis d'entendre les 14 récits d'Auschwitz réalisés par Annette Wieworka. Décalage horaire tout à l'heure, d'ailleurs, est revenu sur cette série de surpris par la nuit. Une fois de plus, la mémoire est convoquée dans cette Radio Libre d'Irène Omelianenko et Mehdi Eladj.
On n'a pas parlé de la déportation de papa. Si, toujours pour excuser ce qui pouvait nous agacer. Quand papa se tape 2 litres de glace alors que 3 boules suffiraient, ça nous énerve parce qu'on voudrait le voir un peu plus maigre, svelte, plus en forme, etc. Et on se regarde, on se dit, bon, après tout, après ce qu'il a vécu, qui on est pour lui interdire quoi que ce soit. Donc il en profite un max. C'est juste ça notre relation... entre nous, les enfants, par rapport à la déportation de papa. On ne s'est jamais assis à une table en disant « il a vécu ce qu'il a vécu, ça a été horrible ». Jamais. On ne s'est jamais assis pour faire le deuil de nos grands-parents. On ne s'est jamais assis pour parler de tout ça. On a toujours excusé papa de tout. Parce qu'il y avait eu ça.
14 récits d'Auschwitz et après.
On est d'abord revenu très malade, dans un état pitoyable, très malade, et surtout, pour les adolescents comme moi, sans les parents. En fait, ce qui était très dur, le retour, c'est quand on n'a pas retrouvé la famille. Il y avait une assistante sociale qui nous a fait partir en maison de repos, mais pas d'assistante sociale pour s'occuper du devenir. Qu'est-ce que vous allez faire après? Qu'est-ce que vous savez que j'avais... là j'aurais pu reprendre des études après ma convalescence, et ça n'a pas été possible. Je n'avais pas les moyens.
Est-ce qu'on vous questionnait à cette époque-là?
Oui, de temps en temps. Oui, on nous questionnait un petit peu, je dois dire, mais on n'écoutait pas longtemps. Quand on avait dit quelques mots de ce qu'était le camp, les gens répondaient « Oh là là, mais c'est horrible ce que vous me racontez ». Puis les gens n'écoutaient plus. La curiosité n'était pas une grande curiosité. Non.
C'était une souffrance pour vous, cette non-écoute?
Une souffrance, peut-être pas proprement dit, mais on avait un besoin quand même de communiquer et de raconter. Ce qui fait que petit à petit, on s'est retrouvés entre nous, entre anciens déportés. Même si on ne parlait pas vraiment du camp, il y avait vraiment un fossé entre les déportés et ceux qui n'avaient pas... Et c'est ceux qui ne comprenaient pas. Il y avait vraiment une barrière. Et on s'est tout de suite constitué en amicale. Et j'ai fréquenté tout de suite, comme je l'ai pu, l'amicale d'Auschwitz, par exemple, où on se retrouvait entre anciens déportés, et surtout entre anciennes déportées qui nous étions connues là-bas. Ça, ça a été quelque chose de très, très fort. Et à l'heure actuelle, maintenant, ça existe. On se retrouve tous les jeudis à l'amicale d'Auschwitz et on est très, très, très proches. Je ne sais pas comment ça peut s'appeler. C'est plus fort que de la famille, je crois, parce que celles qui ont vécu les mêmes moments que nous, on est très très proches, très unis, on a besoin de se retrouver.
Moi-même, qui fais partie de ça, je ne sais même pas combien de personnes nous sommes encore en vie des déportés qui sont partis de France. J'en sais rien. J'en sais rien si on est... énormément, si on est 200, 300, j'en sais rien, je ne peux pas savoir. Puisque nous sommes revenus 2500, alors depuis 45, il y a eu beaucoup de déchets. Et ce qui reste, c'est franchement de la chance, beaucoup de chance. Il y en a tellement qui sont partis. Moi, j'ai été déporté en septembre 42. Alors, c'était l'époque vraiment les plus difficiles, c'est-à-dire les premiers convois qui sont partis le 27 mars à Auschwitz, jusqu'à la fin de l'année, ont eu une autre vie que les autres déportés qui sont venus après, qui ont eu un peu plus de chance pour pouvoir durer. Lorsqu'on est arrivé, c'était vraiment l'extermination à 100% de tous les côtés. Ça a été un truc terrible. Mais enfin, moi je suis privilégié, je suis là, je suis en train de vous parler. 60 ans après, c'est énorme, même Ça fait presque, oui, 60 ans, puisque j'ai été déporté en 42. Ça fait 60 ans de ça. Vous imaginez un peu, je suis en train de vous raconter, moi, ces histoires-là. Et je suis plus ou moins en bonne santé. Je vais pas...
Oui, vous avez l'air.
Bah oui, puisque j'ai 80 ans quand même. J'aurais pu être beaucoup plus marqué.
Récit d'Auschwitz et après. Après, un radio libre. Après, la rencontre avec Henri Borland, dont la mémoire réduite au silence lors du retour, s'est réveillée pour témoignage pour mémoire et depuis, inlassablement circule auprès des lycéens ou dans les centres de détention de Villepinte et La Santé. Après, deux films, Les enfants de Sam, de Pascal Magoutier, et Valentine, d'Amélie Galli et Violaine Lebec. Après, deux textes, La diaspora des cendres, de Nadine Fresco, Sois déportée et témoigne, de la psychanalyste Anne-Lise Stern. Après, L'incessant combat, dont Simone Veil témoigne. Après, 14 récits d'Auschwitz, présentés par Annette Viverka.
Violette Jacquet est née Silberstein en 1925, fille unique d'un couple immigré de Transylvanie, province ballottée entre la Hongrie et la Roumanie. Elle grandit au Havre, commence le violon à l'âge de 6 ans et demi, ce qui lui permettra de faire partie de l'orchestre à Auschwitz-Birkenau. En 1942, la famille quitte le Havre pour Paris. Après avoir échappé à la rafle du Veldiv, elle se réfugie chez un parent à Lille, dans cette région rattachée au commandement militaire allemand de Belgique. Violette et ses parents sont dénoncés et arrêtés. Ils se retrouvent au camp de Malines, le Drancy belge, y passent une douzaine de jours, puis sont chargés dans un train.
Vous avez éprouvé le besoin de parler en rentrant, de raconter un
peu ? Oui, bien sûr, beaucoup. Ah oui, jusqu'au jour, jusqu'au jour où me trouvant justement chez mon ami d'enfance, qui n'était pas juif du tout, qui avait fait une espèce de ce qu'on appellerait une boum au Havre, je racontais. Et il y a un garçon qui est venu me dire, écoute, arrête, ça n'est plus supportable. Et ce jour-là, je me dis, bon, je ferme ma gueule, c'est terminé. S'ils ne peuvent pas supporter d'entendre ce que j'ai vécu, c'est pas la peine. Je fermais ma gueule. Et je n'en parlais que si on me le demandait. Or, très curieusement, les gens n'osent pas non plus, parce qu'ils sont pleins de tact ou de je sais pas quoi. Alors, quand on m'en parle, je suis intarissable. Mais moi, depuis ce jour-là, je n'en parle pas, parce que je ne veux pas m'exposer à une autre rebuffade comme celle-là.
Il y a une très grande influence de la diffusion par la chaîne Histoire des procès Barbie, du procès Barbie.
Annette Viviorca.
C'est-à-dire que le procès Barbie a montré finalement les gens pouvaient entendre des témoignages bruts. Et que cette parole filmée était quelque chose qui pouvait être entendu et regardé. Et je pense que c'est à la suite de cela que Henri Borland a proposé à la chaîne Histoire de passer en continu, parce que c'était ça la première proposition, les témoignages que nous avions enregistrés à partir du tout début des années 90. Et puis petit à petit, par une sorte d'alchimie, on ne sait pas laquelle, l'idée a été de faire 14 récits, de les faire sous un format de 26 minutes. Ça, le format de 26 minutes, il était important pour nous parce que c'est un format qui permet de l'intégrer complètement dans une heure de classe. Ça permet de dire quelque chose avant, de passer le film et de dire quelque chose après. Et ensuite, on a donc réfléchi dans ce cadre-là. On savait qu'il y aurait 14 récits. On a pensé que Auschwitz pouvait faire l'unité de ces récits. C'est-à-dire qu'on ne prenait pas de récits du ghetto, on ne prenait pas de récits d'autres camps. Et à partir de là, on a réfléchi sur cette possibilité de faire une sorte de récit à 14 voix, que chacun de ces récits puisse être autonome, mais qu'en même temps, il dessine une sorte d'histoire avec des voix différentes de ce qu'avait été la déportation dans les camps du système, enfin, dans les camps d'Auschwitz.
J'ai parlé bien plus que les 2h30. J'ai parlé peut-être 5h, mais on a coupé pas mal de choses. Et encore, vous savez, il y avait tellement de choses à dire.
Isidore Rosenbaum.
Que ce sont surtout les souvenirs marquants que j'ai racontés, parce que sinon, ça pouvait durer 3 jours, hein, ce que j'aurais pu raconter. C'est énorme, ça a l'air de rien comme ça, mais j'aurais pu en parler pendant 3 jours. J'ai omis même, lorsque j'ai parlé pendant ces quelques heures, des choses assez principales. Moi, j'étais passé plusieurs fois, vous savez, la sélection. J'ai entendu parler de ce truc-là. Mais je ne l'ai même pas cité dans mon truc. Pourtant, je l'ai passé 5 fois. Alors, c'est pour vous dire qu'il y avait tellement de choses à raconter qu'on ne savait pas par où commencer. Puisque Mme Viviorca, elle n'avait pas besoin de me questionner. Ça se débitait tout seul. Mais franchement, moi-même, quand je me regarde, je m'écoute, je me dis quand même, je suis un phénomène. Non, mais franchement, on parle entre nous. Je ne mérite pas de médaille ou quoi que ce soit. Hein, c'est un fait. Ça s'est passé comme ça. Et je suis tombé là-dessus. Là, on m'a arrêté à la frontière. À l'époque, la ligne d'émarcation, vous connaissiez ça. J'ai fait le chemin plusieurs fois aller-retour pour m'amuser. Puisque à l'époque, vous savez, quand vous avez 18 ans... On se souciait de peu de choses. Je l'ai fait, je sais, le nombre de fois que j'amenais des copains. Tout en faisant le passeur, c'était pas professionnel, comme beaucoup de gens l'ont fait. Moi, ça m'amusait. Je cherchais un endroit où il y avait un passage. Ça pouvait être du côté de Chalon-sur-Saône, ça pouvait être du côté de Dax, ça pouvait être n'importe quel coin. Je m'enseignais d'abord, parce que la frontière était plus ou moins perméable. Il fallait connaître les endroits où les soldats passaient. Il y avait des patrouilles qui passaient toutes les 2 heures. C'est pas comme des frontières reconnues, vous voyez ce que je veux dire. Eh ben, je suis passé plusieurs fois, ça m'amusait. Et sur une de ces passages, j'allais chercher quelqu'un à Paris. Là, je me suis fait prendre bêtement. Et bêtement, je me suis retrouvé dans un camp. Voilà.
Hirsch-Henri Borland est né en 1927 à Paris, dans une famille d'immigrés russes de 9 enfants. Les plus jeunes sont évacués à la veille de la déclaration de guerre dans le Maine-et-Loire, avec leur mère. Ils s'installent à Saint-Lambert-du-Latay, où le père les rejoint. Les enfants sont scolarisés dans l'école catholique du village et baptisés. Henri fait sa première communion. Le 15 juillet 1942, des Allemands en uniforme viennent arrêter les membres de la famille âgés de 15 à 50 ans. Sa mère, 42 ans, une sœur, un frère et Henri, tout juste âgé de 15 ans. Ils sont emprisonnés au grand séminaire d'Angers, hommes et femmes séparés. 2 jours plus tard, les Allemands ramènent la mère à Saint-Lambert et prennent le père. Le 20 juillet, tous 4 sont embarqués à la gare Saint-Lô d'Angers. Le convoi arrive à Birkenau le 23 juillet.
À l'époque où moi je suis arrivé dans le camp, c'est-à-dire je suis arrivé à Birkenau le 23 juillet 1942, l'extermination se faisait dans le camp. Ce n'était pas encore les sélections à l'arrivée. Il n'y avait pas encore les moyens industriels de tuer, d'anéantir, d'exterminer. Donc on est entré, les 11 premiers convois, je suis du 8e convoi. Mais les 11 premiers convois, 10-11 premiers convois, j'ai vu ça sur les ouvrages de Serge Klarsfeld, sont entrés pratiquement intégralement dans le camp. Et l'extermination se faisait dans le camp. Donc on a tout de suite été bastonnés, assommés, frappés. On a été aux prises avec les tueurs qui se glorifiaient du nombre de morts qu'ils avaient par jour. Il y avait des chefs de baraque où on leur disait il faut faire de la place et ils s'annonçaient moins 20, moins 30, moins 40. Donc c'était des stakhanovismes de l'extermination. Et donc si vous voulez, ça nous paraissait pas invraisemblable que. Et puis on nous le disait, ça faisait partie du discours, on nous serinait constamment que d'ici on sortirait par la cheminée. Bon, on ne le comprenait pas tout de suite parce que les discours étaient faits en allemand, mais ceux qui survivaient, ils apprenaient très vite la langue des chefs, et voilà, c'était. Enfin, je pourrais vous le dire en allemand parce que j'ai encore les mots dans la mémoire, si vous parliez de mémoire. C'était accompagné d'insultes. Et pendant que je vous parle, je repasse tout ça, les insultes en allemand. Voilà.
Le camp de concentration se trouvait à proximité de la mer, près d'un village entouré de forêts. Les prisonniers se levaient le matin à 4 heures. Ils recevaient un demi-litre de café et sans se laver, car il n'y avait pas d'eau, mal reposés car ils dormaient sur de la paille pourrie parmi les poux, ils partaient au travail. Ils défrichaient les bois, nivelaient la terre et attendaient le repas, c'est-à-dire un demi-litre d'eau, avec quelques morceaux nageant ça et là. Puis le travail reprenait jusqu'au soir. À 8 heures, du pain, une cuillère de marmelade, du café, et la nuit pleine de cauchemars. Faim, fatigue, poux. Les gens cessaient de raisonner et leur conscience d'être se changeait en conscience d'avoir faim.
Simone Veil, 1985.
Je dois dire que les années d'après-guerre, jusque à aujourd'hui, il y a un mur. Il y a un mur entre les anciens déportés. On extrapole des sentiments que nous n'avions pas. Nous, ce qu'on voulait surtout, ce que nous souhaitions surtout, c'est qu'on sache, c'est qu'on nous entende, c'est qu'on essaye de comprendre comment, par quel engrenage, on avait pu arriver à des événements aussi atroces. C'était pas du tout pour la vengeance, c'était pas du tout contre telle ou telle personne, contre telle ESS. C'était vraiment le système que l'on voulait dénoncer. Et là aussi, personne n'a voulu se mettre à notre place, essayer de comprendre. Alors quelquefois, par exemple, c'était encore pire, on essayait de nous faire raconter des histoires les plus horribles possibles, avec une sorte de sadisme. On avait l'impression que presque les gens étaient presque contents d'entendre des histoires abominables et de se dire qu'ils y avaient échappé. Et nous n'avons plus pu parler parce que tout ça était très si différent, si autre d'une chose que nous avions vécue et dans lequel surtout nous avions eu le sentiment qu'on était passé de l'autre côté du miroir, de l'autre côté de l'humanité, et que c'était ça que nous voulions faire comprendre. Et il a fallu se battre. Il a fallu se battre pour qu'on en parle. Moi, je me suis battue pour que le film Holocauste, avec toutes ses faiblesses peut-être, soit projeté. Le film Shoah de Klaus Lanzmann a eu tant de mal à être réalisé. Et alors, je pense à une réflexion qui m'a été faite il y a 2 ou 3 ans, où je crois que c'est un rabbin qui m'a dit, vous savez, il a fallu 40 ans à Moïse pour sortir du désert, c'est le temps qu'il faut pour que le temps passe et que l'on comprenne les choses. Et peut-être, en l'espèce, 40 ans, c'était aussi nécessaire. Et puis surtout, nous avons voulu protester avec vigueur contre tous ceux qui veulent aujourd'hui nier les chambres à gaz. Et pour les quelques centaines qui vivent encore et qui ont vu tous ces trains arriver, ces trains au mois de mai, juin 44, bourrés de Hongrois, de femmes, d'enfants, de vieillards, que nous avons vus directement entrer dans ces petits bâtiments de briques et qui étaient les chambres à gaz, dont il ne sortait jamais qu'une fumée qui empestait le camp en permanence par son odeur. et nous ne voulons pas mourir avec ces souvenirs seulement en nous. Nous disons que quoi qu'on fasse, même si on n'a pas voulu nous entendre pendant des années, nous parlerons jusqu'à notre mort.
Anne-Lise Stern est psychanalyste. Il a fallu 40 ans et une troisième génération capable d'entendre une chose aussi horrible pour que, dit-elle, moi, j'ose penser. Elle nous reçoit chez elle. Me confie avant qu'il n'ait reçu le prix Nobel un texte d'Imre Kertész. Nous demande de remiser notre magnétophone dans l'entrée et pendant une heure commente un texte abrupt. Soit déporté et témoigne.
Soit déporté et témoigne. Intitulé plutôt rêche. Il vise plutôt mes collègues psychanalystes. Ce qu'ils font ne font pas de cette histoire. Mais rêche, il reste. Et je dois dire mon admiration pour la souvent très grande sérénité de certains, certaines camarades déportés. Je n'en suis pas là, et m'en veux sans doute surtout à moi-même. Difficile de faire tenir ensemble déportés et psychanalystes. Il y a 10 ans, un colloque se tenait à la Sorbonne. Simone Veil y a parlé, témoigné de son besoin absolu au retour de parler, parole qu'elle aurait bien soutenue ininterrompue. Mais voilà, on l'interrompait sans cesse. Claude Lanzmann était là aussi. Il a parlé à peine. C'était peu après la sortie du film Shoah. Dans un groupe plus restreint, après, j'ai osé dire « Et si à la place de tous ces discours savants, on avait projeté le film, on en aurait peut-être appris bien plus ?» Ça, a protesté quelqu'un, ce serait la fin de la Sorbonne. Mais Simone, elle, après, m'a embrassé très fortement. Aujourd'hui, je ne le pense plus tout à fait comme ça. Même si, sans le savoir, j'avais posé une question de fond. Dans ces 10 ans, bien des choses ont passé. D'autres se sont passées. Un professeur a pu écrire, dire, dans un lapsus pas assez repéré. La Shoah, c'est interminable navet. Je traduis. La Shoah, interminable histoire de l'extermination. Il en reste encore des juifs, figurez-vous. Représenté par un film très long, interminable, Shoah, fade comme un navet, pas excitant, pas jouissif comme un portier de nuit ou autre porno concentrationnaire. Soit déporté et témoigne pourrait aussi s'entendre. Quoi ? Tu veux le savon et en plus l'argent du savon. Tu veux le savoir sur le savon que tu as failli devenir et en plus l'argent du savon, du savoir sur tout ça. C'est à nous qu'il appartient. Nous, nous savons. Nous, les spécialistes. Même si, au fond, nous voulons surtout n'en rien savoir.
Simone Veil, octobre 2002.
J'ai une belle sœur, la sœur de mon mari qui a été déportée. Nous en parlons quand nous sommes toutes les deux. Mais uniquement quand nous sommes toutes les deux. Parce que nous sentons que nos maris respectifs, et peut-être encore plus pour ma belle-sœur, parce qu'elle était déjà fiancée quand elle a été déportée, et donc pour son fiancé, ça avait été insupportable d'attendre son retour, au fond ne supporte pas. Et je crois que pratiquement, mon mari, j'en ai très souvent parlé dans des colloques ou autres, je crois que mon mari n'a jamais pu entrer dans la salle. Il est quelquefois venu me chercher, accompagné, il ne m'a jamais entendu. C'est insupportable pour eux. Mais je crois que c'est que ces récits ont une validité. Nous avons été tout à fait mis en cause pendant un certain temps par les historiens en disant de toute façon les gens qui ont été des victimes ne sont pas des témoins valables, on peut mettre en cause leur partialité. Et il a fallu le livre d'Annette Vivorca, L'ère du témoin, avec laquelle d'ailleurs j'avais beaucoup parlé de ces questions au moment où elle l'a élaboré, rédigé, écrit, pensé. Et les choses ont changé à partir de ce moment-là, mais c'est récent. Mais je me souviens d'un grand colloque d'historiens qui avait été organisé en réponse à la Sorbonne, en réponse à la thèse de Roch. Et donc je témoignais sur ce que j'avais vu. Ce qui était, au fond, les gens, la façon dont se passait la sélection sur la rampe, la façon dont on voyait des trains qui arrivaient du camp lui-même, et vraiment les choses étaient, ou même dont on avait l'occasion d'approcher d'une chambre à gaz, qui m'est arrivée une fois, pas très loin, dans un camp, et de voir le matin tous les vêtements, les béquilles, les poussettes d'enfants, les jouets, enfin, donc, pour nous, c'était, je pense que, même si je comprends très bien que les historiens ont besoin de vérifier les choses, de recouper, c'était un témoignage d'émotion, un témoignage vécu sur le vif, et que on a besoin aussi de l'émotion. Qu'au surplus historiquement, les historiens ils travaillent sur des témoignages qui ont plus de temps, qui ont été vérifiés, mais ils témoignent toujours. Les archives, ce sont toujours des documents écrits qui ont été conçus par des gens qui ont participé. Mais que, si ce sont, par exemple, l'espèce, les SS, on peut mettre en cause tout autant les bourreaux, le témoignage des gens. Et donc, que très largement, dans les sources de l'histoire, il y a beaucoup de témoignages.
Premier cercle de mémoire, les témoins directs. Second cercle, ceux de la transmission anatomique, du nazisme et des camps. Ainsi Nadine Fresco, sollicitée en 1981 par la Nouvelle Revue de Psychanalyse, a livré un texte qui allait du même coup révéler l'emprise sur ceux et celles nés après. L'emprise, ce fut d'abord celle du silence. À la maison, on ne parlait jamais des années de la guerre, silence de mort en vérité, et la révélation était venue très tard, à l'adolescence. Il faut que tu le saches, maintenant, tu avais un frère. Il était resté en Pologne avec ta grand-mère, et ils ne sont pas revenus. Un frère qui vous tombait mort sur les bras à un âge où on aurait eu particulièrement besoin de lui vivant. Mais depuis l'enfance, le silence avait été trop absolu pour que le faire-part fût totalement une surprise. « Maman, raconte quand tu étais petite. » Et prenant l'enfant sur ses genoux, la mère racontait, toujours les mêmes histoires, toujours dans le même ordre. « Et après ?»« Après, papa et moi, on s'est mariés, et puis tu es né. » Avant cet après, c'était le trou noir, béant, vertigineux, d'années indicibles, dans lesquelles s'engouffrait un impossible roman des origines. Le récit de la mère s'arrêtait toujours à la même époque, juste avant la guerre. Après, ils étaient venus vivre en France. En changeant de lieu, ils avaient aussi changé de temps. L'enfant avait grandi, mais les récits ne se modifiaient pas, et il n'y avait pas grand-chose à la maison pour nourrir ou démasquer ce silence. Pas une parole n'avait été prononcée au sujet de ce frère mort, de cette sœur morte. Pas une photo ne traînait, pas un objet qui les rappela. Parfois alors, ils avaient fouillé dans les papiers de leurs parents, à la recherche de ce qu'on leur cachait, sans savoir qu'on leur cachait quelque chose. À 12 ans, j'ai pris dans l'armoire de mes parents le livret de famille. Il y avait mon nom, celui de mon frère qui a 5 ans de plus que moi, et puis, encore avant, j'ai lu « Judith, née le 12 janvier 1936 ». Je n'avais jamais entendu parler d'elle. J'ai demandé à mon frère « C'est qui, Judith ?» Il m'a dit « Demande à maman ». J'ai demandé à mon père « C'est qui, Judith ? » Il m'a dit « Demande à ta mère. » À ma mère, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas demandé. Et je n'en ai plus parlé à la maison. Mais comme sur le livret de famille en face de « Décédé, le », il n'y avait rien d'écrit, je n'ai pas compris que Judith était morte. J'ai pensé qu'elle était folle,
enfermée dans un asile, et que ma mère allait la voir, mais qu'elle ne voulait pas que je le sache. Les fouilles sont limitées. À la place de la mort interdite, l'enfant invente la folie. Silence de la mère, folie de la mère emmurée dans son silence. Et l'enfant sort de l'enfance en trimballant dans sa tête une sœur vivante, emmurée, mythique, qui aurait été tendre et compréhensive. À ce moment-là, je m'entendais plutôt mal avec mes parents, et avec mon frère, c'était les disputes et les bagarres en permanence. C'est vers la même époque que, sans savoir pourquoi, elle a commencé à lire tout ce qu'elle pouvait trouver sur la déportation, et toujours les mêmes photos, les corps décharnés, les crânes rasés, les yeux exorbités. À la maison, il n'y avait pas de photos, comme si personne n'était mort, comme si personne n'avait été vivant. Et elle se réveillait parfois en hurlant de terreur après des cauchemars dans lesquels revenaient des fous aux yeux exorbités, enfermés dans des cellules de bois. Jusqu'au jour, j'avais 17 ans, où j'ai voulu aller en Allemagne. Ma mère n'avait jamais rien dit contre les Allemands, mais ce jour-là, elle m'a mise en garde. Tu pourrais tomber sur une famille nazie. Alors elle a sorti d'un portefeuille la photo d'une petite fille qui ressemblait un peu à mon frère aîné. C'était Judith. C'était la première fois que je voyais pleurer ma mère. Elle n'a pratiquement rien dit. Ça m'a pris très longtemps, mais à partir de ce moment-là, la grande sœur folle est devenue peu à peu pour moi une petite fille qui était morte. Plus tard, j'ai trouvé des photos d'elle. J'ai reconstitué les 6 années de sa vie, photo par photo. Elles avaient été mises à la cave. Je ne les ai jamais montrées à mes parents. Ils ne m'en ont jamais parlé. Ils les avaient peut-être oubliées. Le silence formait comme une chape de plomb qui pesait sur tous à la fois. Les parents n'expliquaient rien, les enfants ne demandaient rien. Du souvenir interdit, de la mort, ne parvenaient que les assauts incompréhensibles de la douleur. Ma mère avait des crises effroyables de temps à autre. Je ne savais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Ça faisait partie de notre vie. L'identité avait été pour les parents si intolérablement synonyme de persécution que parfois, pour cacher la mort aux enfants, ils leur cachaient aussi qu'ils étaient juifs. Jusqu'à ce que j'aie 10 ans environ, je ne savais pas que ma mère était juive. Toute sa famille a été exterminée, comme toute cette maison a disparu, il n'y a presque pas de traces. Comme elle ne me l'avait pas dit, et comme personne ne m'avait jamais adressé la parole en tant que juive, c'est quelque chose que j'ai vécu dans le silence. Quand j'ai eu 10 ans, j'ai mis tous les indices ensemble. J'avais trouvé une boîte de photos de la famille de ma mère derrière une armoire, derrière 3 valises. Et j'ai reconnu qu'elle avait un frère qui me ressemblait beaucoup. Alors je suis allée lui dire que j'avais compris qu'elle était juive, et ça a provoqué une de ces crises épouvantables qu'elle avait tout le temps. Mon père m'a dit « Si tu as compris qu'elle était juive, tu n'avais qu'à venir me le dire à moi, il ne fallait pas aller l'emmerder, elle. » C'est une démarche que j'ai faite une seule fois, c'était pour mettre un nom sur ce qui se passait tous les jours pendant des années sans que je le comprenne.
Sam Braun.
Je crois que la génération de mes enfants, de tous les enfants qui sont nés après la guerre, issus de déportés, est une génération sacrifiée. Ou bien le père ou la mère les a abreuvés de souvenirs au point de les rendre malades, ces pauvres mômes, sous une accumulation de souvenirs, parce que le père ou la mère avait besoin de cet exutoire-là. Et l'ont fait auprès de leurs enfants, ou bien certains et la majorité ont fait ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire pas bien, c'est-à-dire ne rien dire. Et je crois que c'est la majorité. Ce silence-là de mes 40 ans a été 40 ans de silence pour mes enfants aussi.
Isidore Rosenbaum est né à Paris en 1923, de parents tous deux natifs de Varsovie, arrivés en France en 1920. La famille compte 3 enfants. À la suite d'une fugue, à l'âge de 12 ans, Isidore passe 3 ans en maison de correction, véritable bagne pour enfants. Son père, raflé dans le 11e arrondissement en août 1941, est déporté au cours de l'été suivant. Isidore est arrêté le 19 juillet 1942, en tentant de passer clandestinement la ligne de démarcation. Emprisonné à Autun, Pithiviers, Beaune-la-Rolande, puis Drancy, Isidore Rosenbaum est déporté le 23 septembre 1942.
Non, on ne m'a pas demandé, qu'est-ce que je voulais que je raconte. Je ne pouvais pas crier sur les toits que j'étais déporté. Il n'y a que lorsque je me trouvais à la plage et puis qu'on voyait mon numéro, j'ai beaucoup de gens qui me demandaient qu'est-ce que c'est. Beaucoup de gens, même de chez nous, qui ne savaient pas qu'est-ce que c'était. Des jeunes, beaucoup de jeunes, ils sont toujours étonnés, même maintenant, encore plus. Lorsque je vais à la plage, je vais me baigner malgré mes 80 ans. Eh bien, lorsqu'on voit le numéro sur le bras, les gens sont étonnés. Ils ne connaissent pas. Malgré qu'on ait pu raconter tout ce qu'on peut raconter, malgré les efforts que les gens comme vous et d'autres font pour démontrer ce qui s'est passé, pour leur faire croire, parce que beaucoup de gens ne croient pas. Même qu'ils le regardent, ils ont l'impression, moi-même, lorsque je le regarde, je l'ai regardé, je vous dis, pour la 15e fois, je me demande si c'est vrai aussi. Alors, je ne m'étonne pas que les étrangers ne le croient pas.
C'est des choses pas croyables.
Mais vous l'aviez raconté à votre femme, par exemple?
Ah oui, ma femme était au courant, bien sûr. Puisque il y a 56 ans que je suis marié, elle a eu le temps de l'apprendre. D'ailleurs, elle me dit, de toute façon, tous les déportés ne sont pas normaux. Pas que je sois fou, mais il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. On a un caractère, pas mauvais caractère, mais on est quand même un peu soupolé. Il y a quelque chose qui est resté. Chaque déporté qui, comme moi, par exemple, moi je me cite parce que j'ai été 3 ans, je dis quand même, il y a quand même des séquelles qui sont restées du caractère. Maintenant, moi j'ai pas changé de caractère, j'ai jamais été, mauvais. Je suis toujours resté bon. J'ai pas changé. Et on n'invente pas ça, on est né bon. Où on les menait mauvais. Et dans les circonstances où j'ai passé les 3 années, il y a eu beaucoup de gens qui n'étaient pas très gentils. Même parmi nous. Et je le raconte sur la cassette.
Et pourtant, vous aviez été à rue d'école avant, vous aviez même connu la maison de correction.
Oui, j'étais en maison de correction. Les 2 ans et demi que j'ai passé à la maison de correction m'ont préparé pour le futur à Auschwitz. C'est pour ça que je raconte. Lorsque je prenais des coups à Auschwitz, je savais déjà ce que c'était, parce que j'ai commencé à la maison, j'ai fini à la maison de correction, et aussi là-bas à Auschwitz, j'en ai pris des coups. J'étais habitué. Toutes ces choses-là, emmagasinées jusqu'à Auschwitz, m'ont permis de tenir un peu plus que les autres, c'est tout. Voilà, c'est un peu tout. Je vous dis, on peut raconter beaucoup de choses.
Et votre père, Isidore Rosenbaum, il avait été déporté avant vous, en fait.
Oui, il a été déporté avant moi parce que il était étranger. Alors, il avait été arrêté avant. Et moi, comme j'étais né en France, j'étais naturalisé français, on ne nous avait pas pris. Parce qu'ils sont venus faire une rafle en 1941 dans le 11e. C'est à la suite de cette rafle-là que tous les juifs du 11e ont été arrêtés, les étrangers, pas les Français. J'étais pas considéré encore comme déportable. J'ai encore pu durer 1 an. Ouais, je peux pas. Je veux pas raconter ma vie. On va croire que j'invente des choses. Après, je peux pas vous dire ça. Mais. Comme vous m'avez posé la question de la maison de correction, ça m'était déjà sorti de la tête, ça. Même Auschwitz, il faut que je regarde de nouveau ma cassette pour dire j'ai été là-bas. Je vous le garantis. Puisque je l'ai regardé, je vous le répète, 15 fois, et je prends ma cassette, elle dure 2h30, et je la regarde entièrement en me disant c'est pas moi. Et comme ça, c'est l'effet que ça me fait.
Vous voulez dire qu'après, vous avez vécu en oubliant tout ça, en le laissant de côté en...
Je ne l'oublie pas. Je ne l'oublie pas, mais on ne peut pas parler de ça comme ça. Je ne vais pas embêter ma femme et lui dire si tu savais ce que je suis. Jamais j'en parle. Si elle me pose des questions, oui. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de dire que j'avais une cassette, comme ça, tout le monde voulait la voir. Si je voulais, je l'ai encore. Mais à chaque fois que je donne ma cassette, après c'est la croix et la bannière pour la revoir, vous comprenez. Alors je ne la donne plus. Mais je l'ai prêtée à 50 personnes, au moins.
Des personnes qui ne connaissaient pas votre histoire, en fait.
Ah non, ils savaient que j'ai été déporté. Mais enfin, ils ne s'imaginaient pas la vie qu'on a eue pendant ce laps de temps. Tout le monde est étonné. Parce que quand je m'écoute, je me dis, mais où on peut inventer des choses comme ça? Moi-même, je me regarde. J'ose pas demander à ma femme qu'elle me regarde encore une fois. Moi, je me lève la nuit pour aller la voir, cette cassette. Quand je dors, je dors pas toujours bien. Moi, j'ai eu, depuis que je suis revenu du camp, on m'a peut-être tué 3000 fois, en rêve, en cauchemar. Moi, j'en ai, maintenant, j'en fais moins, maintenant. Mais avant, il n'y avait pas une nuit où j'en faisais pas un. On me tuait de toutes les manières, j'ai déjà été tué. Et je me réveille le matin, je suis vivant, je suis content d'avoir bien dormi, même avec des cauchemars. Combien de fois je criais dans la nuit, ma femme, elle me réveillait, parce qu'on me tuait, ou on voulait me tuer. C'était un truc terrible. Eh oui.
Quatorze récits d'Auschwitz, et après. Après, les cauchemars. Une grande vague qui a porté l'enfance de Malka Braun, entendant la nuit son père gémir. Après, la peur de l'ombre et du bruit des bottes. Le hurlement des ordres, la faim comme ennemie sournoise. Après, pour Henri Borland, la mémoire de la nudité.
J'ai fait ma communion solennelle, ma confirmation. Ce n'est pas des choses qui vous préparent à vous mettre nu devant tout le monde. Le sens du péché, je l'avais. J'avais jamais vu mon père se mettre nu devant moi. Et moi, devant mon père, à 15 ans, c'est une chose qui ne se faisait pas. Et devant tout le monde. Et quand on nous a donné l'ordre de nous déshabiller, on est resté incrédule. Sans les premiers coups, on ne se serait pas déshabillé. Donc on a pris des coups de tous les côtés. Puis on a commencé à enlever nos vêtements. Et nos vêtements, dès qu'ils étaient par terre, et les gens les ramassaient, on savait qu'on ne les retrouverait pas. Et je me suis cramponné à mon pantalon et puis il a fallu l'enlever. Et puis on s'est trouvé tout nu. Et là, il y a une équipe qui est arrivée avec des tondeuses qui nous ont tondu le crâne. Vous imaginez, vous êtes moi j'étais avec mon frère et mon père, ma sœur, on nous avait séparés dès l'arrivée, dès le départ d'Angers, quand on est monté dans les trains, pour notre convoi, on avait séparé les hommes des femmes. Par la suite, ce ne sera pas le cas, mais pour notre convoi, ça s'est passé comme ça. Et donc, je ne l'ai plus revue. Et elle est entrée au camp des femmes. Donc, moi, j'étais avec mon père et mon frère. Donc, mon frère Bernard, qui avait 17 ans, mais qui avait une taille d'adulte, c'était un grand costaud, il mesurait 1m84, il était solide, il avait travaillé dans une ferme pendant que nous, les plus jeunes, on allait à l'école. Puis, avec mon père, donc, on s'est revus le crâne rasé, tondu, et puis on nous a rasé sous les bras. On nous a rasé le pubis, on nous a fait prendre des positions humiliantes, à quatre pattes, écarter les fesses. Je ne sais pas s'il y a eu des fouilles plus poussées, parce que, évidemment, on nous a tout pris. En tout cas, moi, j'ai vécu ça très mal. Et c'était c'est parce que c'était le choc du début, parce que je n'avais pas encore l'habitude. Après, il suffisait d'un ordre et tout le monde se déshabillait sans même y réfléchir. Mais au début, c'est insupportable. Donc voilà, c'était... Alors,
et votre corps s'en souvient ? Enfin, c'est quelque chose qui vous a accompagné longtemps ?
La nudité, non. Non, ça se perd très vite parce qu'après, il y a bien d'autres choses. Donc ça... à la limite, on pourrait en sourire. C'était bien autre chose. Après, se mettre nu, c'était montrer sa maigreur. C'était dangereux parce que pour les sélections, on nous faisait déshabiller. Donc, on avait bien d'autres soucis quand on nous faisait mettre nu, par exemple, on était en rang comme pour l'appel, et puis on passait un par un devant le médecin SS, l'officier SS qui faisait la sélection. Et à ce moment-là, la nudité s'était révélée, notre aspect squelettique, les plaies. C'est difficile de vous expliquer tout ça, mais...
Et vous aviez le souci, à ce moment-là, de vous dire, il faudrait que ça se sache.
Voilà. Alors ça, c'était quelque chose de lancinant, parce qu'on ne pouvait pas s'empêcher de penser que tout ça, ça se passait dans le secret. C'est-à-dire que les gens ne savaient pas. Nous, en arrivant, on ne pouvait pas croire. Alors comment les autres... pouvait croire des choses pareilles. D'autre part, c'était dans des endroits isolés. On n'avait pas de contact avec l'extérieur. Et on se disait, ils sont en train de nous exterminer, puis personne ne le saura.
Le premier cadavre tomba comme un cri d'étonnement. Mais bientôt, il y eut des dizaines, des centaines, des milliers de cadavres. Alors on comprit que les barbelés enfermaient une autre dimension de la réalité, et on entrait dans cette nouvelle vie comme dans une jungle. Survint une épidémie de typhus et de diarrhée. Des hommes sales et puants couraient à travers le camp, se vidant de leur déjection dans la boue. Parfois, un homme en uniforme battait un de ses condamnés à mort, le forçant à lécher sa fange. Le monde changeait de peau. La personnalité humaine disparaissait. Tout avait le même visage marqué par la douleur. Autour d'eux, il y avait la forêt et les oiseaux, et au-dessus, le ciel grand et froid qui encerclait leur prison.
Qui c'est qui peut s'intéresser, qui c'est qui peut ne pas s'intéresser à ça? J'en parle jamais comme ça, à part qu'on m'ait demandé ce que Borland m'a demandé. Autrement, j'ai été au camp, je veux pas une médaille pour ça, je l'ai pas fait exprès. J'ai pas été volontaire pour y aller. On m'a pris, et j'ai appris, vous voyez, que avant la guerre, lorsque j'étais un gamin turbulent, comme on dit, mais je savais pas que j'étais juif, je vous le dis franchement, je fréquentais que des catholiques.
Le commandant avait un chien. Le commandant choisissait chaque jour un groupe de prisonniers et leur ordonnait de se mettre nus devant les cuisines. Et alors il lâchait son chien, dressé à mordre les parties génitales des hommes. Périodiquement, un groupe de prisonniers se rendait à la forêt, creusait une fosse de 16 mètres de long, 2 mètres de large et 1 mètre de profondeur. Puis 50 autres prisonniers étaient menés à la forêt et avec eux des hommes armés de carabines. De ces 50, jamais aucun ne revenait au camp.
Madame Ella Borland.
En fait, moi, je ne suis pas d'origine juive. Je suis d'origine allemande. Et lorsque j'ai quitté l'école, je voulais devenir hôtesse de l'air. Et j'étais trop jeune et on m'a conseillé d'aller apprendre une langue à l'étranger. Je suis allée en Angleterre et on m'a demandé si j'acceptais d'aller dans une famille juive. Moi, je ne savais pas du tout ce que c'était les juifs. Alors j'ai consulté mes parents. Je n'avais que 17 ans, enfin j'avais 16 ans à l'époque. Et puis, mes parents, ils m'ont dit, si tu le souhaites. J'ai dit, qu'est-ce que c'est les Juifs? Mon père m'a dit, autrefois, avant la guerre, j'avais des amis juifs. C'est des gens comme ci, comme ça. Je sentais quand même qu'il y avait quelque chose qui voulait pas dire ou qui ne disait pas. Mais en fait, j'étais tout à fait innocente et ça ne m'avait pas frappée à ce moment-là. Donc je suis allée dans cette famille juive et cette famille juive, en fait, demandait des jeunes filles au père allemande parce qu'ils savaient apparemment qu'on ne leur apprenait pas à l'école ce qui s'était passé pendant la dernière guerre, en tout cas à cette époque-là. Donc moi, mes années de scolarité se sont arrêtées en 57. Je suis sortie de l'école et je suis allée donc dans cette famille anglaise. Et ça n'a pas loupé. Le monsieur, il m'a, à un moment donné, à l'occasion d'un grand voyage qu'on avait fait pour aller en vacances, il m'a raconté ce qui s'est passé pendant la dernière guerre. Non, avec tous les détails de la déportation, etc. Il était d'origine polonaise, sa femme également. Et il nous racontait donc tous les pogroms, les ghettos, la déportation, ce qu'avaient fait les nazis, etc. Et moi, je suis, encore aujourd'hui, j'en étais complètement retournée. Et quand je suis arrivée chez moi, de nouveau, chez moi en Allemagne, chez mes parents, je leur ai posé la question, je leur ai dit, racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai besoin de savoir. C'est mon peuple et c'est vous, mes parents. Et puis, mon père, il a dit, c'est l'histoire ancienne, on n'en parle pas. Ma mère, elle a commencé à pleurer, puis elle est partie. Donc, moi, j'ai acheté des livres sur la déportation. À ce moment-là, il était sorti Mila 18 ou un livre de Léon Uris sur les ghettos de Varsovie et sur la déportation. Et j'ai lu ça et j'ai ramené ça à la maison et j'ai dit à mes parents, voilà, vous lisez ça et ensuite, je souhaiterais que vous me parliez de ça. Ni ma mère qui n'a pas pu en parler, ni mon père qui n'a pas voulu en parler. Donc, ça n'a jamais été évoqué, plus jamais évoqué. Et moi, je me suis dit, je ne vais pas vivre dans ce pays où on nous raconte des salades, des mensonges, où on laisse les héritiers d'un pays dans l'ignorance, etc. Et je suis partie. Je suis partie en France. C'est là où j'ai rencontré mon mari, voilà. Et donc, quand j'ai connu mon mari, et quand notre ami commun m'a dit il a appris l'allemand dans les camps, puisqu'il était dans les camps, moi, je savais d'où il venait déjà. Mais en fait, avec mon mari, on n'en a jamais parlé. Enfin, je le savais. Bien sûr, je savais que sa famille était juive. J'ai fait très vite la connaissance de sa famille. Et quand nous nous sommes mariés, ma belle-mère est arrivée avec un voile de deuil, ce que je comprenais parfaitement bien, parce qu'elle avait perdu son mari, elle avait perdu deux de ses enfants, ses parents, enfin, beaucoup, beaucoup de personnes de sa famille. Et puis, ce qui est rigolo, c'est que moi, j'étais mineure et mes parents, ils étaient obligés de venir au mariage. Et puis, ma belle-mère, qui était très... très bouleversée par ce mariage. Elle est devenue très amie avec mon père tout de suite. Et puis voilà, on a vécu... on a vécu grâce à ma belle-mère dans une tradition qui était en fait un peu de tradition. Ce n'était pas religieux du tout, mais un peu de tradition juive. Le Yom Kippour, par exemple, en fait, Yom Kippour, elle avait le don de réunir toute la famille à ce moment-là. Tous les frères et sœurs de mon mari venaient avec leurs époux, avec leurs enfants. Et avec leurs épouses, d'ailleurs. Et puis, j'avais essayé, après la mort de ma belle-mère, j'avais essayé de garder un peu cette tradition, comme on avait un appartement relativement grand. Donc nous pouvions inviter toute la famille. Puis ces derniers temps, bon ben, comme on vieillit, les enfants s'en vont, ça s'est un tout petit peu perdu. Mais en fait, vous me posiez la question sur la mémoire de la déportation de mon mari lorsqu'il avait 15 ans. Bien sûr, j'ignore rien, du tout, parce que entre-temps, j'ai lu d'autres livres. J'ai lu les livres notamment de Primo Levi. J'ai lu d'autres choses. Mais dans son travail actuel de témoignage, je n'interviens jamais. Et on parle quasiment pas de ça. On a fondé une famille, on a 4 enfants, on a 7 petits-enfants. Ma vie avec mon mari n'est pas sur cette base-là. C'est pas, on ne vit pas, nous, avec son passé, ni d'ailleurs avec le mien, et puis mes filles aînées non plus. Et malheureusement, mon mari n'a jamais pu parler à mes filles aînées de sa déportation. Et ce qui fait que les filles aînées, elles se sont créées un monde, je pense, autour de cette déportation qu'elles ne peuvent encore pas assumer aujourd'hui. Or, elles ont 40 ans. Et je crois que ça leur fait très, très mal. Et je pense que ça les bouleverse énormément. Mais Valentine, par contre, qui, elle a assisté à des témoignages aussi de par son travail en tant qu'assistant justement à l'ingénieur du son, ou à la caméra d'ailleurs. Donc elle a très vite su et elle a très vite tout assimilé, enfin tout. Dans sa vie, ça fait partie de sa vie aussi.
Ouais, je connais des anecdotes, des trucs qu'il raconte, et je sais comment il s'est évadé, ça je sais. Et je sais que quand il était dans le train et qu'il achetait la pièce pour sa mère, et je sais qu'il a survécu. Je sais. Je sais un peu les histoires de ses copains. Je sais qu'il avait un copain médecin, un copain. Je sais qu'à un moment donné, il était cuisinier. Je sais pas tellement de trucs, en fait.
Valentine et Henri sont mes voisins du dessous, de mon immeuble.
Violaine Lebec, Amélie Galli, réalisatrice du film Valentine.
Je connais Valentine depuis que j'ai 3 ans. Et j'ai appris vers l'âge de 14-15 ans que son père avait été dans les camps de concentration, mais ça ne m'a pas choquée spécialement. Je ne le savais pas. Il ne me semble pas me souvenir de cette histoire avant. Mais je n'ai pas posé de questions et je ne me suis pas... je ne me suis pas penchée sur ce sujet-là. Et en cherchant donc pour faire ce film, je me suis interrogée de savoir quelle était la chose que je regrettais peut-être, quelles questions je n'avais pas posées, le point noir en fait de mon histoire d'avant. Et je me suis dit que voilà, c'était l'occasion ou jamais de s'intéresser à Valentine, à son père, de retourner un peu sur cette histoire-là que j'avais finalement un peu occultée. Et donc voilà, donc j'ai proposé ce sujet-là à Amélie, qui était plutôt enthousiaste, mais pour d'autres raisons. En fait,
ouais, en fait moi, à l'inverse de Vienne, je n'avais pas du tout un rapport affectif à cette histoire. Elle est arrivée presque par... Le truc de cette histoire, c'est la grande histoire et l'histoire intime, en fait. La différence et le passage, le croisement entre la grande histoire et l'histoire personnelle. Et moi, c'était le sujet de la guerre et des camps, et si on peut dire ça comme ça, ce qui est réducteur. Mais en gros, toute cette période de l'histoire, ça m'avait toujours beaucoup intéressée. J'avais lu pas mal de bouquins dessus. Il y avait quelque chose autour de ça, comme tout le monde, je pense, parce que je pense qu'on ne peut pas avoir 25 ans aujourd'hui et être curieux du monde sans encore s'interroger. Il y a tellement de réminiscences aussi de toute cette période, même aujourd'hui, actuellement, qui font qu'on ne peut pas... Pour moi, on ne pouvait pas passer à côté de cette histoire-là, et ça résonnait sur plein de questions politiques, historiques, plein de choses. Donc ça, c'est un truc qui m'avait toujours quand même taraudé. Et puis il y avait comme une espèce de attraction, répulsion, fascination aussi pour tous ces gens qui étaient revenus et que moi je ne connaissais pas. C'est-à-dire que j'avais vu des films, il y a quand même quelque chose de très fort à l'idée de rencontrer. Vous me dites si je vous choque, hein, parce que
non, mais pas du tout.
Un discours très. Mais il y a quand même quelque chose de fascinant, sans tomber dans le voyeurisme, mais de très fascinant face à tous ces gens qui ont subi tant de choses et qui en sont revenus et qui se sont tus pendant des années et on arrivait, voilà. Donc moi, c'était plutôt cet aspect-là, en fait. C'était arriver enfin à m'approcher d'un sujet qui me touchait et qui m'intéressait par un biais qui était proche de moi. Et ce que je trouvais fabuleux, en fait, c'était que c'est difficile de traiter ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de films qui ont été faits dessus. Aller voir Henri, on aurait pu aussi choisir Henri. Aller voir Henri et lui dire, Henri, racontez-nous votre histoire. Henri, c'est quelqu'un qui a 75 ans et qui est magnifique, qui a une histoire et qui en parle. Mais tout ça, ça a été fait et refait et refait et sous plein de façons différentes. Là, on pensait tenir quelque chose. C'est que Valentine, elle a notre âge. Elle est de la même génération que nous. Et c'est très rare, puisqu'il y a très peu d'enfants de survivants. Les enfants de survivants, aujourd'hui, des gens qui ont 40 ans, donc qui ont plus l'âge presque... Il y a un rapport d'une génération. Henri, il pourrait presque être notre grand-père, et les enfants de survivants seraient nos parents, et nous, on serait des petits-enfants. Donc là, on avait face à nous quelqu'un qui avait notre âge, les mêmes préoccupations que nous, qui était une jeune fille de 25 ans dans la société qu'on connaît aujourd'hui.
Qui se posait les mêmes questions, voilà. Qui avait les mêmes préoccupations, plus ou moins, et
qui pouvait nous dire, elle, ce que, de nous faire un lien avec cet homme qui avait un passé si fort et une histoire si forte qui, elle aussi, nous intéressait. On s'est rendu compte aussi que ce qu'on interrogeait, c'était l'idée de la filiation, beaucoup, et de la transmission. Mais dans ce cas-là, avec un exemple très fort et que tout le monde connaît, mais finalement, la question qu'on interroge, c'est qu'est-ce que c'est avoir qu'est-ce qu'on fait de l'histoire de nos parents, en fait ? Comment cette histoire, on en hérite, et c'est un peu la nôtre. Comment on se l'approprie, et en même temps, comment on la gère, puisque toutes ces souffrances dans un cas douloureux comme celui-là, qu'on hérite de toutes ces souffrances, et finalement, comment on arrive à les gérer en ayant aujourd'hui 25 ans. Alors, dans le cas de Valentine, c'est une histoire très, très dure, et très. Donc, c'était un cas extrême, et finalement, on se rend compte en voyant le film, en montrant le film à des gens, que ça fait écho pour les gens et que ça interroge leur relation avec leurs propres parents, les questions qu'ils n'ont pas forcément posées avec leurs parents, puisque c'est aussi un film sur le silence et l'incapacité à demander. Alors Valentine dit, voilà, j'ai 25 ans aujourd'hui et moi, je ne peux pas demander ça à mon père. Et finalement, je sais beaucoup de choses sans vraiment savoir. Mais en tout cas, le dialogue frontal, c'est jamais fait et se fera pas pour l'instant. Peut-être qu'elle aura pas le même discours dans 15 ans, quand justement elle aura 40 ans et que les enfants qui ont aujourd'hui 40 ans nous auraient sûrement pas répondu la même chose qu'elle. Mais finalement, on est rentré dans quelque chose qui est une préoccupation qui est de toutes les personnes qui ont 25 ans aujourd'hui, quoi. Et qui touche à, au-delà de l'histoire d'Auschwitz, c'est l'histoire d'Henri qui est la question de l'héritage et de l'héritage familial intime. Et qu'est-ce qu'on fait de cet héritage et comment on s'en débrouille, surtout, quoi.
Mon père, c'est pas ces photos de mecs super maigres avec un habit rayé comme ça. Mon père, c'est pas une pile de squelettes, de cadavres. Mon père, c'est pas quelqu'un qui... Tu vois, mon père, c'est pas toutes ces... Mon père, c'est pas ça, quoi. C'est pas mon père. Enfin, c'est mon père, mais c'est pas mon père. Enfin, tu vois ?
On peut pas être triste, en fait. Quand on parlait de ce film, on disait, voilà, on va faire un film sur... C'est l'histoire d'une fille et de son père. Et son père, il sort des camps et les gens vous regardaient. Mais nos profs, voilà,
c'est
mais...
C'est pas possible.
Vous avez pas les épaules, vous pouvez pas porter ça. Mais
c'est
comment vous allez partir de ça ? Voilà, c'est vous... Puis les gens sont plombés, vraiment. Mais il suffit. Enfin, moi, je sais pas. Moi, je vois ce film et puis je discute 5 minutes de ça avec Henri et je me dis, mais.
On a bien fait.
Mais oui.
Paru dans le journal Libération, Henri Borland a reçu une lettre d'un des 4 enfants de Sam. Une lettre inscrite elle aussi dans cet après, où le témoignage d'un père permet une autre parole. Une lettre de Malka.
Je suis la deuxième à le porter, ce prénom, puisque la première fut ma grand-mère qui est morte dans les camps dès son arrivée. Et je porte en deuxième prénom celui de Monique, qui était ma tante, qui avait 9 ans, et qui est partie aussi, ainsi que mon père et mon grand-père. Et elle aussi a été tuée aussitôt. Comme dit papa, certainement heureusement. Donc mon père est revenu, et le seul. Il est parti avec son père, sa mère et sa sœur. Et il avait 15 ans. Et c'est le seul survivant. Il a survécu 2 ans à Auschwitz, puis après il a fait la fameuse marche de janvier à juin. La marche de la mort que je n'ai connue que lorsque je n'étais pas au courant. Enfin si, en même temps j'ai été au courant et j'ai occulté cette connaissance parce que papa a écrit un manuscrit qu'on a tous eu, les 4 enfants. Je l'ai lu et il a donc parlé de cette fameuse marche et j'ai occulté. Pour moi, quand j'ai fermé le livre, je me suis dit c'est impossible qu'un être humain puisse vivre ça, encore moins mon père. Donc j'ai occulté toutes les informations ou presque toutes les informations. Ce qui est important pour moi, c'est quand ils étaient ensemble. Enfin, tout était important, bien sûr, mais... Alors, quand j'ai appris que mon père avait été déporté, jamais, je ne peux pas vous le dire. Simplement, ma mère a entretenu un mythe de grands-parents, donc papy Félix et mamie Malka, qui nous regardaient en haut de la tour Eiffel si on était pas sages. Donc ça, je sais. J'ai une amie d'enfance qui m'a dit, un jour, je t'ai demandé pourquoi ton père avait des lettres tatouées sur le bras. Et... j'ai dû lui dire il a été déporté. Alors, j'ai dû savoir très tôt qu'il avait été déporté. Mais je ne sais pas quand c'est venu. Après, il y a eu le manuscrit. Il paraît que j'avais 15 ans. C'est marrant, j'aurais pensé ça plus tard, vers mes 20 ans plutôt, même 21 ans. Mais il paraît que j'avais 15 ans. Ça me paraît très étonnant. Je pense que la date n'est pas bonne. Mais je crois vraiment que j'avais plutôt 21 ans. Je pense peut-être qu'à l'époque, il avait envie enfin de sortir en lui tout ce qui le hantait. Et c'était étonnant parce que l'écriture était... J'avais l'impression de me replonger avec un adolescent de 15 ans.
Béatrice me dit tout le temps, reprends-le, ce manuscrit. Et chaque fois, je dis non parce que j'ai l'impression qu'il y aurait là quelque chose d'artificiel un peu, tu vois.
Sam Brown.
Que le fait de d'écrire ça, même si j'avais le talent que je n'ai pas, même si j'avais ce talent de littérateur, et si je pouvais transcrire comme Elie Wiesel, comme Primo Levi, qui ont remarquablement écrit sur cette période, si je pouvais le faire, moi je vis ça comme étant une traîtrise vis-à-vis de mes parents. Parce que, autant je dis à ceux qui vont voir Auschwitz, visiter Auschwitz, autant quand on va là-bas, il faut se taire. La place n'est pas aux mots, la place est au silence. Autant je crois que décrire la réalité de ce qui fut là-bas, en faisant des phrases, en recherchant le mot juste, est une traîtrise. Je le vis comme ça. Probablement que j'ai tort. Mais j'ai raison par devers mon vécu. Parce que il faut cracher un peu ça. Si je devais l'écrire, je l'écrirais. Oui, je crois que j'écrirai comme un crachat.
Donc de ce manuscrit, j'en ai occulté énormément de choses, sauf l'horreur. Et une chose qui a été très importante pour moi, et j'ai pu le dire à papa une fois qu'on a vu le documentaire sur lui, sur nous, sur notre témoignage, parce qu'il y a eu un documentaire qui s'appelle Les enfants de Sam, qui est un grand cadeau pour toute la famille, puisqu'enfin on parle. Il faut vous dire que David et moi, on a quand même 11 mois d'écart. 11 mois d'écart, c'est rien, qu'on a été élevés comme des jumeaux, et qu'on avait une promiscuité. Enfin, on était tellement proches que pourquoi ne pas avoir même parlé de ça, tous les deux? Jamais on n'en avait parlé. Nous avons regardé le documentaire tous les quatre ensemble. Et enfin, on a exprimé là, déjà en se regardant les uns les autres, et puis et en se regardant, parce qu'on apprend beaucoup aussi en se regardant.
Donc vous êtes en train de me dire qu'il a fallu dans votre vie qu'un documentariste arrive, regarde l'histoire de votre père et envie de rencontrer ses enfants pour qu'enfin ses enfants acceptent de regarder ce lien à leur père et de se parler entre eux de cette période de la vie de leur père.
L'acceptation de regarder le lien, elle est là depuis toujours. C'est maintenant s'autoriser à parler. Se dire que finalement, ça fait moins de mal de parler que de se taire. J'ai fait 15 ans de thérapie avec toute cette histoire. Je fais plein de choses pour aller mieux, parce que c'est vrai que d'avoir porté les prénoms de Malka et de Monique, c'est un poids, en même temps une fierté pour moi, mais que c'était pas évident. Parce que j'avais envie de plaire à ceux qui les ont connus, aux enfants de Malka, c'est-à-dire mon père, mon oncle qui était encore qui était survivant aussi, enfin pas d'Auschwitz, mais qui était. Et de ma tante. Alors, j'avais un héritage. Et c'est pas facile, cet héritage-là, parce que mourir comme ça, après, on mystifie beaucoup, hein, je pense. Pour moi, ça devait être une femme extraordinaire. Monique aussi. Donc, forcément, c'est pas simple. Encore que maintenant, depuis qu'il y a eu le documentaire, depuis qu'on se parle, depuis ce cadeau, c'est un vrai cadeau, ce documentaire, parce que ça sera aussi le cadeau pour mes filles, c'est-à-dire que c'est ça que je pourrais leur montrer. Je garde tous les articles, j'ai gardé l'article d'Henri Borland, j'ai tout gardé. En même temps, je n'ai pas envie de leur mettre 15 kilos sur les épaules. Hein. J'ai envie que ça soit plus léger que ça ne l'a été pour moi. Je pense que pour une deuxième génération, enfin une troisième génération, ça sera forcément plus léger. Parce que j'aurai travaillé sur moi. J'ai autour de moi des enfants déportés, c'est lourd. Et j'ai l'impression que leurs enfants auront la même lourdeur.
Ida Greenspan est née Ida Fenster-Zab en 1929 à Paris. Ses parents sont arrivés de Pologne 5 ans plus tôt. Son père est tailleur. Quand la guerre est déclarée, ils envoient Ida chez une nourrice dans un petit village des Deux-Sèvres, le Genelier. Ida fréquente l'école primaire, passe son certificat d'études et devient une véritable enfant du pays, adoptée par tous. Le 31 janvier 1944, 3 gendarmes français viennent l'arrêter sur ordre des Allemands. Ida est conduite à Niort, Paris, puis Drancy. Sa mère a été arrêtée lors de la rafle du Veldiv des 16 et 17 juillet 1942 et déportée tout de suite après. Ida ne sait pas ce qu'elle est devenue.
À un moment donné, vous avez commencé, Ida Greenspan, à témoigner auprès des scolaires.
Oh, c'est beaucoup, beaucoup plus tard, quand on a été sollicité, parce que pendant des années et des années, on ne nous a rien demandé. Ça fait à peine 10 ans. Ça correspond à peu près au premier voyage que j'ai fait en 88, où j'ai rencontré Bertrand. C'est à peu près, il y a une bonne dizaine d'années, pas plus. Des résistants allaient dans les écoles. Les résistants, vous savez, après la guerre, bon, c'était les déportés de... Nous n'étions pas considérés nous n'étions pas des résistants, donc on n'avait pas cet honneur. Et puis à partir du moment où on a commencé, là, on est maintenant, je dois dire, très sollicités, parce que nous sommes très très peu à y aller. Beaucoup sont plus âgés, sont fatigués, puis ne veulent plus y aller. Nous sommes très peu, c'est pour ça qu'on a du pain sur la planche.
Alors au fond, c'est constitué une mémoire.
Oui.
Vous avez témoigné, on vous a entendu dans ces 14 récits d'Auschwitz.
J'ai un des premiers témoignages avec Annel Vieillorquin, oui. J'ai fait d'autres vidéos depuis, dans différents musées, à Lyon par exemple, à Grenoble, dans la région de Lille aussi. C'est-à-dire que je dois dire franchement que quand on me demande de témoigner, moi je ne refuse jamais, parce que je pense que c'est très utile, que nous disparaîtrons. Et la vidéo, c'est quand même ça nous survivra. Et c'est quand même intéressant. Une voix, ou que ce soit audio ou que ce soit audiovisuel, c'est quand même important.
Et pourtant,
c'est très important.
Et pourtant, cela n'a pas suffi. À un moment donné, il y a eu le besoin d'un livre. Et le besoin d'un ami pour écrire ce livre.
Ah oui, mais ça, le livre, j'en avais envie depuis très, très, très longtemps. Je pensais qu'il fallait que c'était un miracle si j'étais revenue, mais que ce que j'avais vécu, il fallait que je le raconte, parce qu'il fallait que ça se sache. Et puis, encore une fois, c'est aussi à la mémoire de tous ceux qui sont restés, de mes parents en premier, et de tous les camarades que nous avons vus disparaître. Ça, ce besoin d'écrire un livre, il est très, très ancien. Et puis, il y a eu un déclic. Il y a un déclic où j'ai demandé à Bertrand s'il voulait m'aider au moment où je retrouvais Vanda, l'infirmière. C'est à ce moment-là, ça a éclaté. Je dis, c'est pas possible. Le temps ne travaille pas pour nous. Il faut écrire, il faut faire quelque chose.